Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2024, année des Jeux Olympiques de Paris. On se demande déjà ce qu'il en restera. Quels vont être les impacts des JO sur l'économie, pour le pays, pour les gens? Et comment les Parisiens s'y préparent-ils? On se retrouve pour un nouvel épisode en lien avec l'événement planétaire. Un programme aujourd'hui 100% Parigo et complètement métro. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Retrouvez-nous du lundi au vendredi dès 17h sur leséchos.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Il suffit de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Le métro, c'est le lieu de l'impatience par excellence. Du bruit, du monde, on a vite fait d'y être agacé, y compris par les musiques désaccordées. Alors, quand on tend son micro aux usagers pour leur parler des JO et du métro, ça donne ça.
Bonjour madame, je peux vous poser une question sur les JO ?
Ah non, parce que je veux surtout pas en entendre parler.
Bonjour, je peux vous poser une question ? Sur les JO.
Non, désolé, j'ai pas envie de répondre.
Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question sur les JO ?
Non, merci.
Le sujet gratte un peu. Depuis des mois, les mauvaises nouvelles s'empilent sur les transports parisiens pour la période des Jeux Olympiques. Pas prêts, saturés, plus chers. Qu'elles soient fermées ou bondées, ce sont 200 gares et stations de métro qui vont être affectées par la tenue des JO. Pas certain que les applis ou les QR codes nous sauvent. Quant au gouvernement, il recommande dans sa vaste campagne de communication « Anticiper les Jeux » d'opter pour la marche, le vélo ou le télétravail. Alors pour certains, c'est décidé. Ils vont jeter l'éponge, comme Lazare ou Vincent.
Alors je vais vous demander, tout simplement, est-ce que vous allez prendre le métro pendant les JO ?
Non, moi je fais partie des Parisiens qui partiront de Paris pour les JO. Notre maire nous a demandé de quitter la ville, donc à partir de là... On sait que ce sera difficile.
Je ne serai pas à Paris, j'ai choisi de quitter Paris pendant la période des JO pour ne pas être gêné par les transports. C'est un choix.
Et c'est quelque chose qui vous inquiétait donc ?
Exactement, ouais. Je suis assez préoccupé par la situation des transports déjà actuellement, donc a fortiori pendant la période des JO.
On estime que 30% des Franciliens partiront en vacances au pic de l'événement. Normal, les JO ont lieu en été, mais beaucoup ne pourront pas en faire autant, dont Germaine, fataliste.
Avec tout ce qui va se passer pendant les jours là, on ne sait pas si on va s'en sortir, c'est ça. Mais nous qui prenons le métro tous les jours, du 1er au 31, ça ne sera pas évident pour nous, mais bon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, nous sommes là pour servir la France.
Sur le métro et les JO, il y en a quand même certains qui se montrent partisans et fair play, comme Sacha.
C'est le choix d'un transport assez rapide, je pense potentiellement qui fait partie des transports écologiques dans Paris. Et, je suis assez fervent défenseur et pratiquant du métro à Paris. Dans tous les cas, je pense que c'est un événement qui est incroyable et je pense qu'il faut le vivre comme une chance. Et voilà, on verra au niveau des affluences comment ça va se passer, mais les Jeux, on va à la chandelle.
Sans compter les optimistes cocardiers, à l'image de Justin, qui n'a même pas peur.
Non, ça me fait pas peur. Non, ça me fait pas peur. Ouais, je pense que la France est une grande nation. Ils ont une expérience dans ça. Et il faut pas oublier qu'en France, en Europe, on a les moyens de transport les plus fluides, les plus développés en fait, du monde. Hein. J'ai pas fait d'autres pays, mais je pense bien. Voilà.
Les chiffres et les faits n'en sont pas moins têtus. 1 million de touristes supplémentaires sont attendus cet été à Paris. Le nombre de voyageurs quotidiens va atteindre dans les 10 millions. C'est moins que l'hiver, mais plus que tous les étés. des dizaines de milliers de personnes vont circuler simultanément pour rejoindre les 41 sites franciliens de compétition. On aurait dû avoir les nouvelles lignes du Grand Paris Express, les 15, 16, 17 et 18. Certaines devaient même desservir le village des athlètes. Pas une seule ne sera au rendez-vous olympique. On aurait pu aussi y profiter du CDG Express, la ligne directe et rapide qui doit mettre Paris à 20 minutes de son principal aéroport. Il est reporté à 2027. Il n'y aura donc pas de JO sans métro. Et beaucoup va peser sur la RATP. L'homme qui la dirige depuis fin 2022 est un habitué des dossiers chauds. Jean Castex, ex-premier ministre en temps de Covid, autrement dit un organisateur qui sait organiser. Mais pour les transports parisiens en temps de JO, on peut dire que ce n'est pas gagné.
Ah bah oui, et je pense que les Parisiens le constatent tous les jours, en tout cas ceux qui prennent le métro, le RER, voilà, les lignes arrêtées pour incident et tout ça.
Elsa Fresnay est grand reporter. Elle a signé une enquête dans Les Échos avec Valérie de Senneville sur le sprint olympique de Jean Castex à la RATP pour les JO.
Et c'est un dossier chaud. Parce que on a les Jeux Olympiques cet été, donc on va avoir un surcroît de touristes. Et puis parce que les nouvelles lignes qui avaient été prévues dans le dossier de candidature de la France pour les Jeux Olympiques, il y avait 4 nouvelles lignes du Grand Paris qui ont été prévues, aucune n'est achevée. Ça veut dire que pour venir du principal aéroport parisien, Roissy, les touristes vont devoir compter sur le RERB. Et les usagers du RERB savent bien qu'il est à bout de souffle en ce moment. Et en plus, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait conçu des JO dans la ville. C'est-à-dire qu'on va avoir des épreuves dans des stades éphémères dans Paris, aux Invalides, à la Concorde, au Trocadéro, etc. Donc, ces stades dans la ville, ça veut dire que 95% des lignes de bus parisiennes vont devoir être détournées. Donc, en fait, les spectateurs des JO dans Paris ne pourront compter que sur le métro ou la marche à pied. D'ailleurs, la mairie de Paris prend les devants. Vous avez vu la campagne de publicité actuellement, télétravail, marche à pied, etc. C'est bien que tout le monde a pris conscience que ça va être très tendu sur les transports.
Tu veux un ticket ? Attends. Tiens, regarde. Ah, madame !
Et pour Jean Castex, c'est un nouveau dossier chaud aussi.
Oui, alors bon, il s'est forgé une réputation d'organisateur, hein, puisqu'il, avant d'être Premier ministre, il avait été responsable de la stratégie du déconfinement. C'est quelqu'un qui adore les réseaux ferrés. Un temps, il ambitionnait d'être PDG de la SNCF, etc. Mais là, effectivement, la marche est élevée. Hein. Soit ça passe et on dira Jean Castex a remis la RATP sur des rails. Hein. Soit ça passe pas et on dira qu'il a ridiculisé la France aux yeux du monde entier.
Elsa, qu'est-ce qui manque le plus à la RATP ? Des trains ou des bras ?
Les deux, mon général. La RATP, en fait, ne s'est pas remise du Covid. C'est-à-dire qu'elle n'a toujours pas, au niveau du métro, retrouvé la fréquence de circulation qu'elle avait en 2019. Et Jean Castex le dit lui-même, il ne le cache pas, il dit « Nous avons un réseau obsolète, il y a au moins 8 lignes sur 10 qui ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité. Wow » Waouh. Et on est à moins de 6 mois des JO. Il faut bien comprendre, ça peut pas s'arranger d'un claquement de doigts, un réseau comme celui du métro parisien. D'abord parce que on le sait peu, mais le réseau parisien est le plus dense et le plus maillé au monde. Il faut s'imaginer rien que dans Paris, intramuros, 309 stations, 220 km de voies. C'est énorme. Et ça a longtemps d'ailleurs fait la fierté de la régie. Parce que ce qui compte dans un métro, c'est pas comme pour un train. Un train, ce qui compte, c'est qu'il arrive à l'heure. Pour un métro, c'est qu'il y en ait suffisamment dans un temps donné et notamment aux heures de pointe. À la RATP, en moyenne, on est en dessous de 2 minutes entre chaque rame de métro. Il n'y a que l'Asie qui atteint ça. New York, Berlin, faut oublier. Le problème, c'est que depuis le Covid, cette fréquence-là est devenue bien trop aléatoire. Et il y a des lignes qui n'y arrivent absolument pas. Et pourquoi elles n'y arrivent pas ? 1. L'état technique des rames, C'est-à-dire qu'on a quand même des rames sur certaines lignes qui datent des années 70. Ça fait vieux. Et puis ensuite, parce que pour la première fois de son histoire, la RATP n'arrive plus à embaucher suffisamment de gens. Les recrutements avaient été stoppés pendant le Covid. Or, on ne forme pas un conducteur de métro comme ça en 15 jours. Donc, le temps que les gens qui étaient sélectionnés soient formés et arrivent, ben voilà. On en est là et il n'y a toujours pas assez de conducteurs de métro.
Mais chauffeur, où est le chauffeur ?
Le chauffeur, je lui ai donné 10 francs et il a pris le train.
Que l'on fasse appel à un ancien Premier ministre pour diriger la régie des transports parisiens, est-ce que c'est bien passé à la RATP ?
Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne lui a pas déroulé le tapis rouge en interne. Les syndicats de la RATP voyaient d'abord en lui un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et de leur part, c'était certainement pas un compliment. Quelque part en externe non plus, parce que l'organisme qui gère et qui finance la RATP, qui prévoit les investissements, etc., c'est Île-de-France Mobilité, qui dépend de la région Île-de-France. Et Valérie Pécresse, à l'époque, était absolument furax de l'état du métro parisien. Elle a accueilli Jean Castex en disant dans une interview « il va falloir qu'il se retrousse les manches ». Donc, il était attendu au tournant, c'est certain. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a eu en ligne de mire que compte tenu de l'état du réseau, il faudrait surtout pas qu'il y ait de mouvement social avant, pendant les JO. Donc, il a augmenté les agents, tous les agents. Et puis, il a aussi prévu des augmentations supplémentaires dans les métiers qui peinent à recruter. Chauffeur de bus, voilà. Donc, certains disent qu'il achète un peu cher la paix sociale. En même temps, il va absolument avoir besoin d'une surmobilisation de ses agents pour les Jeux Olympiques.
Jean Castex arpente la France et multiplie les visites. Un mois après son arrivée à Matignon, il a effectué 14 déplacements sur tout le territoire, dont un en Guyane. Une stratégie qu'il assume.
On vient d'entendre une archive de 2020. Jean Castex est à ce moment-là un inconnu du grand public qui vient d'être désigné Premier ministre pour gouverner un pays en plein Covid et en plein déconfinement. Ça fait son lot de difficultés à gérer. Elsa, est-ce qu'hier comme aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une méthode Castex ?
La méthode Castex, on l'a découverte à Matignon. C'est proximité, proximité, proximité. Donc, il est arrivé à la RATP dans une entreprise où il n'y avait plus de dialogue social. C'est-à-dire que les syndicats ne discutaient plus avec Catherine Guilloire, qui d'ailleurs a quitté son poste en cours de mandat. Donc, il fallait qu'il rétablisse ça. Et il l'a fait de deux manières, donc je l'ai dit, en augmentant les agents et en discutant avec les syndicats, et puis en faisant constamment des visites sur les lignes. Je l'ai accompagné, moi, dans l'une de ses tournées, et c'est en 3 heures, il va réconforter une équipe dans une station où une agente a été agressée. Il monte dans la cabine du chauffeur de métro, il discute de système de pilotage, il fait une visio avec tous les agents de la ligne et à la fin, il donne son adresse mail direct en disant « n'hésitez pas à m'alerter ». Et in fine, il finit à Chaussée-d'Antin, donc dans une station où il y a beaucoup de touristes. Il discute avec la guichetière et puis il finit par répondre en espagnol à une touriste. Donc, alors, ça, on peut se dire que c'est de la communication, et c'en est. Mais comme le dit un syndicaliste CGT, dans une entreprise qui est une entreprise de contact humain, ça passe bien. Et puis, il y a aussi un contraste avec ses prédécesseuses qui avaient beaucoup moins le contact humain.
La région Île-de-France mobilise plusieurs programmateurs qui modélisent tous les déplacements à venir pour les 7 millions de visiteurs attendus pour les JO.
C'est l'équivalent de 50 sessions, 50 événements par jour à gérer. Et chaque jour, naturellement, des événements différents. Si jamais la ligne B tombe en panne, il va falloir qu'en appuyant sur un seul bouton, on y ait le plan B prévu pour ça.
Les transports pendant les JO, tout le monde en parle à Paris, notamment comme d'une catastrophe annoncée. Est-ce que c'est le risque ?
Oui, absolument, oui, c'est le risque. Parce que en dehors même de l'état du réseau et du fait que la RATP peine à recruter, les JO sont un défi. Je vais vous prendre un exemple. conduire 80 000 spectateurs au Stade de France pour une finale de Coupe du Monde et les ramener ensuite, 2 heures plus tard, ça, la RATP sait faire. Mais les JO, ça va être plus de 10 sites, avec sur chaque site des gens qui arrivent et qui repartent en fonction des épreuves pour lesquelles ils ont des billets. Donc il va y avoir une simultanéité incroyable, avec des flux incroyables. Et ça, c'est en dehors même de l'état actuel du réseau, c'est pas simple à gérer, c'est un vrai défi. Donc in fine, beaucoup de choses vont reposer à la fois sur le prolongement de la ligne 14, au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly et au nord jusqu'au Stade de France. Ce prolongement n'est pas encore terminé, c'est-à-dire qu'il y a encore des tests. Donc il doit être prêt pour la fin mai et c'est le chantier qui n'a pas le droit d'arriver en retard. Et en dehors de cette ligne, l'autre chose, c'est qu'énormément va reposer sur les agents. C'est-à-dire que les conducteurs de métro vont devoir éviter de prendre leurs vacances en été. Il y aura des agents de maintenance en station pour, n'oublions pas, les tourniquets, les portes de sortie, c'est un peu obsolète aussi, hein. Donc pour pouvoir réparer très vite. Et le but de tout ça, en fait, en station, c'est il y a une chose qui est dangereuse dans le métro. C'est si vous avez trop de monde sur les quais, il y a risque d'accident. Et donc, ces agents vont être en grand nombre, à la fois pour guider les touristes qui connaissent pas les transports parisiens, et ils devront absolument éviter les attroupements. Voilà pourquoi tout va beaucoup reposer sur eux, et pourquoi Jean Castex a acheté la paix sociale.
On sait quand même depuis 6 ans que Paris doit accueillir les JO en 2024. Outre le Covid, est-ce que le dossier des transports a calé?
Mais en fait, c'est ce qui nous a le plus étonné avec Valérie de Senneville, avec qui j'ai fait l'enquête, c'est le manque d'anticipation. Oui, c'est vrai, ça fait 6 ans. Alors, quand on a cherché des causes, et c'est un mélange. D'abord, il y a eu un choix politique de la part de la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse. C'est que elle a beaucoup investi dans les transports, mais elle voulait d'abord le faire pour les usagers du quotidien. Donc, dans un premier temps, elle a donné priorité à la Grande Couronne et au RER. Or, tous les chantiers industriels, on le sait, tout le temps, prennent du retard. Et là, en plus, il y a eu le Covid. Donc, les RER ne sont pas au point. Et il y a bien un grand plan de rénovation prévu pour le métro parisien, mais la plupart aura lieu après les JO. Donc là, on a une décision politique, des retards industriels habituels, mais augmentés par le Covid. Et enfin, il y a quand même une chose. Il y a 3 entités qui se mêlent des transports parisiens. La RATP, Île-de-France Mobilité, donc la région, et l'État aussi. Et pendant tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ces 3 entités n'ont pas réussi à discuter de manière efficace. Pour des raisons de rivalité politique, pour des raisons de manque de financement. Donc voilà, c'est le cocktail qui fait que il y a une dernière ligne droite qu'il ne faut absolument pas louper, mais qui s'apparente à un sprint.
Ils sont mis en grève.
Tous les passagers sont priés de descendre.
La grève dans tout ça, c'est une éventualité qui fait peur?
Elle a fait peur, notamment parce que le calendrier initial, il ne faut pas oublier que la RATP est dans un calendrier sur plusieurs années d'ouverture à la concurrence. Les bus de la Grande Couronne, ça a déjà eu lieu. Et l'ouverture à la concurrence des bus parisiens devait avoir lieu au moment des JO. Donc, autant dire que c'était le plus mauvais calendrier et que l'an dernier, pendant tout le premier semestre, il y a eu un bras de fer entre l'État et la région pour reporter ce calendrier ou en tout cas l'étaler. C'est à ça que la région et l'État sont parvenus à un accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attribution des lots de bus parisiens au privé avant les JO. Ce qui a carrément calmé le climat social. Donc, entre cet étalement-là, les augmentations de salaire, je discutais même avec les syndicats, ils n'ont pas envie de prendre la responsabilité d'un blocage des transports pendant les JO. Ils sont aussi conscients de leur responsabilité face au monde entier. Donc, il fallait leur donner la possibilité de, eux aussi, mobiliser les agents et dire « allez, on y va ».
Dans le meilleur des scénarios, la RATP et Castex en sortiront-ils grandis de cet épisode des JO et pour aller vers quoi éventuellement ?
Alors, ce qui va se passer en juillet pour Jean Castex, c'est quitte ou double. Soit il se rate et on le rendra responsable du ridicule de la France devant le monde, même si en vérité il ne serait pas le seul responsable. Soit il y arrive, et là, il apparaîtra un peu en sauveur de l'image de la France. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que au sein de la Macronie, vous le savez, tout le monde réfléchit à l'après-Macron. Qui serait le candidat, qui correspondrait à l'envie des Français, etc. Et j'ai eu plusieurs ministres qui m'ont dit, si les Français ont envie d'un profil totalement différent d'Emmanuel Macron, Jean Castex peut être une solution. Bon, tout ça, c'est des hypothèses, hein, mais on l'a soumise, Valérie de Senneville et moi, on l'a soumise avant à Jean Castex, et il a dit, non, 2027, c'est absolument pas mon sujet pour le moment. Et puis, à force de discuter, sa pensée chemine, et puis il nous lâche un truc en disant, en politique, parfois, on cherche à emporter la conviction en disant, mon programme est le meilleur, etc. Et il nous dit, mais avant ça, il faut d'abord inspirer confiance par la preuve. Alors, on a l'impression d'un plaidoyer pro domo et surtout d'une critique voilée sur Emmanuel Macron, qui a un problème de déficit de confiance auprès des Français. On lui fait remarquer, il dit « Ah non, 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 on a dit qu'on ne parlait pas de politique. »
Merci à Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos et aux usagers du métro parisien, dont même la mauvaise humeur de certains m'a attendri. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.